Nous recevons Marie-Angèle Hermite. Marie-Angèle Hermite est juriste. Elle est directeure de recherche au CNRS. Elle est directeure d'études à l'EHESS. Elle est spécialiste des biotechnologies. En 1993, elle a reçu le prix de l'Association française des économistes pour ses travaux sur la brevetabilité du vivant, thème qu'elle va en partie aborder aujourd'hui. Elle a reçu en 1997 la médaille d'argent du CNRS. Elle a publié en 1996 aux éditions du Seuil un ouvrage qui s'intitule « Le sang et le droit ». Après cette période, elle a publié de nombreux articles dans des revues spécialisées de droit ou de sciences sociales sur l'expertise et la démocratie. Marie-Angèle Hermite, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi un débat de 20 minutes suivra avec le public. Je vous remercie.
Bien, je vous remercie. Vous savez ou vous vous doutez que probablement je n'ai pas fait attention en acceptant ce thème « Pouvoir sur la vie, pouvoir sur la mort ». C'est évidemment trop large et trop ambitieux. Donc je vous donnerai quelques exemples des situations dans lesquelles le droit est intervenu pour réguler ses pouvoirs sur la vie ou sur la mort. Et j'essaierai surtout de vous montrer comment le droit pourrait intervenir mieux à l'avenir. Évidemment, je suis juriste, donc je ne vais pas vous décrire ces pouvoirs des biotechnologies et plus particulièrement de la biomédecine, mais simplement cadrer le propos. Les interventions s'exercent sur les micro-organismes, sur les végétaux, sur les animaux, et parmi les animaux, sur les êtres humains. Ces pouvoirs ont vocation à transformer l'agriculture, l'élevage, l'industrie, la médecine, mais aussi d'assurer la conception des êtres humains, de les accompagner dans la mort, de les transformer, d'utiliser les cadavres. Tout ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et la question pourrait se poser de savoir si le droit a un rôle là-dedans. À mon avis, il en a plusieurs, qu'il n'exerce pas très bien aujourd'hui. Et justement, la question se pose de savoir comment il pourrait les exercer d'une manière plus efficace. Et alors, je voudrais essayer de tracer un schéma donc de cet échec actuel, au moins partiel, jusqu'à quelque chose qui pourrait mieux marcher, en divisant mon propos en deux parties. Je vais d'abord vous donner quelques exemples des occurrences dans lesquelles le droit s'est bien adapté, contrairement à ce qu'on dit d'habitude, mais parce qu'il s'est bien adapté, il a fort peu résisté. Donc on peut se poser la question de savoir s'il a assumé sa vocation, l'une de ses vocations en tout cas, qui est non seulement d'accompagner les évolutions du monde, mais aussi de fixer un certain nombre de limites à ces évolutions. Donc il s'adapte bien, il résiste mal. Et dans la deuxième partie, je voudrais essayer de vous montrer comment, dans un système démocratique, il pourrait désormais aborder le champ des sciences et des techniques. Donc dans cette première partie, le droit s'adapte bien et résiste mal. Je voudrais repartir simplement de l'idée qu'on vous assène tout le temps et très souvent dans les journaux, vous avez ce propos, il y a une lacune dans le droit. C'est assez rare, il n'y a pas de lacune dans le droit, sauf dans le champ très particulier du droit pénal. Il n'y a pas de lacune, il y a en réalité des choses qui gênent. On vous dit aussi le droit est en retard. Alors ça, c'est assez fréquent, il est en retard sur les faits, ce qui est tout à fait normal et dans la logique de choses. Ce qu'il y a, c'est que ce retard, me semble-t-il, pourrait très souvent être analysé comme un signal d'alerte. Et ça, apparemment, actuellement, pas grand monde ne s'en est rendu compte. Et je voudrais vous donner trois exemples dans lesquels le droit n'ayant pas été analysé comme un signal d'alerte, au moment de sa transformation, on a fait des choses qui ont été finalement mal acceptée dans un certain nombre de cas. Et je voudrais vous donner un troisième exemple dans lequel, pour l'instant, on ne peut pas encore dire que c'est mal accepté, ce n'est pas fait. Mais je voudrais essayer au moins de vous montrer comment ça pourrait se faire. Il est évident que le droit doit s'adapter. Par exemple, quand on commence à électrifier la France, il y a des gens plus malins que d'autres, un petit peu voleurs, qui mettent un mécanisme qui permet de dériver l'électricité pour l'amener chez eux en se payant sur le compteur de quelqu'un d'autre. Bon, le code pénal ne connaissait pas le vol d'électricité et en raison du principe de l'égalité des délits et des peines, eh bien, on ne pouvait pas condamner les petits malins qui dérivaient. Donc là, il est évident qu'il faut changer le droit. Dans la mesure où, qu'est-ce qu'on fait ? On adapte simplement la vieille notion du vol, notion immémoriale, à un nouvel objet. Ça ne pose aucune difficulté, il suffit de le vouloir. Dans d'autres cas, c'est beaucoup plus compliqué. Et en réalité, ce droit qui gêne est aussi un droit qui a synthétisé dans ses catégories et dans ses règles des choses extrêmement importantes pour la longue durée, et ça, avant d'y toucher, il faudrait faire beaucoup plus attention. Alors, je vais vous donner l'exemple de ce qui s'est passé dans les 30 dernières années en matière de transplantation d'organes. On a commencé à transplanter de manière un peu sérieuse, finalement, essentiellement à partir du moment où on a eu une molécule chimique qui permettait d'éviter les rejets et donc de faire réussir les transplantations. Et du coup, à partir du moment où on a eu ce médicament, on s'est trouvé devant une pénurie, au sens économique du terme, une pénurie d'organes. Donc on a voulu aller vite et on voulait pouvoir prélever, du coup, sur des cadavres. Et en réalité, on ne s'est pas rendu compte que les gens avaient extrêmement fermement dans la tête une vieille idée selon laquelle on est le maître de la destination de son cadavre, de ses funérailles. On a le droit d'être enterré comme on veut, selon le rite choisi, sans rite si on le veut. On a le droit, depuis un certain temps, d'être incinéré ou d'être enterré, etc. Donc on a une sorte de maîtrise de son cadavre. Et pour la plupart des gens, encore aujourd'hui, on croit que les gens qui deviennent des réserves d'organes aux fins de transplantation sont des gens qui ont fait don de leur corps à la science, qui ont fait don de leur vivant volontairement, par un consentement éclairé, de leurs organes à des fins thérapeutiques. Or, ce n'est pas du tout ça. La loi française, depuis 1976, et elle a été revue en 1994, a établi un système dit du consentement présumé, par lequel toute personne qui n'a pas fait savoir de son vivant de manière exprimée qu'elle n'était pas d'accord pour donner ses organes est considérée comme donneur volontaire d'organes. Ça paraît rationnel. Le législateur n'y a vraiment pas vu malice, il a décidé ça à l'unanimité, il n'y a pas eu de... Personne ne s'est opposé, les parlementaires ont proposé des petites modifications, mais tout le monde était d'accord avec le principe. Et on ne s'est pas rendu compte qu'on portait ainsi atteinte à ce qu'on appelle la liberté, le principe de liberté des funérailles, qui est un principe qui avait été acquis de haute lutte dans la mesure où ce sont les protestants qui, les premiers en France, ont essayé de lutter contre le pouvoir de l'Église catholique à partir du moment où il y a eu des protestants pour se faire enterrer selon leur rite et ne pas être en quelque sorte capturés au dernier moment par l'Église catholique. Ensuite, ça a été les libres penseurs qui ont poursuivi le combat. Et à partir de l'an 12, on laïcise ce combat. Et ce n'est finalement qu'en 1887 qu'une loi dite sur la liberté des funérailles va installer, mais pas définitivement, le principe de la maîtrise de chacun sur ses funérailles et la destination de son cadavre. Donc, vous voyez, 1887, c'est à la fois vieux, il y a plus d'un siècle, mais c'est le résultat d'un long combat qui avait été intériorisé par le public, et le législateur n'y a pas prêté attention en mettant en place son système de consentement présumé. Eh bien, ça n'a pas manqué. En 1992, il y a eu une grave crise des prélèvements, crise qui n'est pas vraiment terminée, et il a fallu que le législateur réintervienne en 1994. Il a d'ailleurs confirmé le principe du consentement présumé, et on ne pourrait pas s'en passer, sinon il n'y aurait plus de transplantation. Mais il a mis un certain nombre de dispositions qui permettent finalement aux médecins, contre la loi, de demander en réalité l'avis des familles sur la destination des cadavres. Et aujourd'hui, on ne prélève plus, semble-t-il, contre l'avis des familles. Donc, si vous voulez, on a installé un système législatif volontairement ambigu qui permet en réalité aux équipes médicales de négocier avec la famille, et désormais, on ne va plus à l'encontre des avis clairs de la famille. Si la famille ne veut pas donner, elle ne donne pas. Donc, vous voyez que quand on lève un obstacle sans avoir réfléchi à la profondeur sociale, en réalité, de cet obstacle juridique, on peut faire des bêtises. Le deuxième exemple que je voulais vous donner concerne la brevetabilité du vivant. J'irai vite alors que c'est en pleine difficulté aujourd'hui. Vous avez vu des déclarations tonitruantes de Blair et Clinton, qui ne manquent pas d'air d'ailleurs. Et si vous voulez, par des questions, on ira un petit peu plus loin. Là, je vais simplement vous dire en quelques mots qu'au moment où les biotechnologies sont apparues, il y avait un obstacle, pas très clair d'ailleurs, dans le droit des brevets. Toutes les inventions ne sont pas brevetables. Il y a des inventions qui sont exclues de la brevetabilité. Et parmi ces inventions exclues, au fil du temps, le droit avait inventé des exclusions portant, par exemple, sur les découvertes, sur les méthodes thérapeutiques, les méthodes chirurgicales. On ne peut pas breveter, par exemple, une idée chirurgicale qui permet d'opérer mieux. Et dans ces exclusions, il y avait les produits de la nature. Ça, c'était la jurisprudence. Ce n'était pas le législateur qui avait fait ça. On avait une vision probablement de la nature comme plus sacrée qu'aujourd'hui. Donc, un organisme vivant, ça ne venait pas tellement à l'idée d'en demander le brevet. En plus, ça concernait essentiellement l'agriculture, ces demandes de brevets, et on voyait assez mal comment on allait pouvoir demander à chaque récolte aux paysans de verser des redevances, ou à la naissance de chaque veau dans une étable, comment on allait pouvoir lui demander une redevance pour satisfaire l'inventeur. Donc, on avait exclu les produits de la nature et les procédés naturels de la brevetabilité. Et puis arrivent les biotechnologies avec d'autres moyens financiers et d'autres ambitions que celles qui avaient été celles des inventeurs de variétés végétales jusque-là. Eux, ils avaient une culture brevet et ils ont dit « il nous faut 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais il faut qu'on vienne à bout de cette exclusion ». Alors ça a effectivement très bien marché. Dès la fin des années 70, que personne ne sait, on brevetait déjà des gènes humains mis dans des micro-organismes sous prétexte que c'était comme une cellule. Et on avait déjà décidé de breveter les cellules vivantes. On a décidé aux États-Unis en 1980, par un arrêt de la Cour suprême des États-Unis, de breveter les micro-organismes génétiquement manipulés. Et on a dit que ce n'est plus un produit de la nature puisque c'est manipulé, c'est une œuvre de l'homme. Et en réalité, c'est une œuvre de l'homme sur une œuvre de la nature. Donc c'est une co-création, en quelque sorte, de l'homme et de la nature. Donc effectivement, du point de vue du droit des brevets, si on éliminait cette exclusion, ça rentrait dans le droit des brevets, œuvre de l'homme. En 1985, c'est un végétal, et en 1987, c'est une huître, en 1988, c'est une souris, on est déjà dans les mammifères. Et en même temps, on avait pris l'habitude de breveter les cellules humaines, les gènes humains, les tissus humains, dès l'instant qu'ils étaient isolés, en quelque sorte, du corps humain, même s'ils n'étaient pas manipulés. Il n'est pas nécessaire de les transformer. L'œuvre de l'homme, c'est même simplement de les isoler, de les extraire. Donc vous voyez que c'est allé très vite pour venir à bout de cette exclusion. En Europe, ça a pris un tout petit peu plus de temps, mais en 1998, on a repris tout ça dans un texte qui a été voté par le Parlement européen, c'est-à-dire par les représentants du peuple européen, et sont désormais brevetables de manière expresse dans cette directive toute la matière vivante et tous ses composants, sans exclusion aucune, si ce n'est un certain nombre de procédés de manipulation génétique germinale de l'être humain. Je ne reviendrai pas, les exclusions sont très minimes. Donc vous voyez comment on passe de l'un à l'autre et finalement à quoi ça aboutit. À quoi ça aboutit ? À un phénomène de concentration dans le domaine du vivant qui a été un phénomène extrêmement rapide et considérable. Ça aboutit à une transformation des pratiques de recherche. Les chercheurs qui échangeaient beaucoup d'informations et de matériel se sont mis à travailler dans l'esprit d'un futur brevet et donc à conserver beaucoup plus de choses secrètes tant que ça n'était pas breveté. Donc les coopérations sont infiniment moins labiles qu'autrefois, les choses circulent beaucoup moins. Ça aboutit à une accélération des mises sur le marché de, par exemple, de plantes transgéniques, parce que s'il n'y avait pas eu de brevet, il est probable que l'industrie se serait beaucoup moins précipitée sur ce secteur. Et l'une des difficultés qu'on a à l'heure actuelle avec la gestion des risques, cette fois-ci en matière de plantes transgéniques, par exemple, vient du fait qu'on a breveté extrêmement tôt, qu'il faut du retour d'investissement et que probablement l'industrie privée est rentrée beaucoup trop vite et beaucoup trop tôt dans une technologie qui était une technologie nouvelle et qui aurait été sûrement moins vite mais mieux régulée à l'intérieur du secteur public que dans la pression qui a été mise par le secteur privé. Et vous avez vu que tout récemment, il y a eu un drame vraiment pénible en matière d'expérimentation de certaines thérapies géniques, et entre autres un jeune homme de 18 ans qui est mort à la suite d'une expérimentation qui a été extrêmement mal conduite. Et il faut savoir que là aussi, le système des start-up, le système des brevets a vraiment une responsabilité dans ce genre de problème parce que les sociétés sont cotées en bourse et pour maintenir, voire faire des spéculations sur le cours en bourse, il faut pouvoir annoncer qu'on est en phase d'expérimentation, donc près du marché, et donc un certain nombre d'expérimentations ne sont pas faites dans les règles. Et le brevet a sa part de responsabilité dans ce genre de dérive. Outre le fait que désormais tous les organismes vivants sont considérés comme des inventions et que probablement dans l'imaginaire social, le fait de passer d'une nature sacrée, alors je ne parle pas là du sacré religieux, je parle du sacré laïque au sens des grands principes de 1789, donc de passer d'une vision sacrée à une vision industrielle, de nature fabriquée, ça a sûrement des retombées dans l'imaginaire social, retombées qu'on ne voit pas forcément aujourd'hui, que je ne serais pas capable de vous décrire, mais que certains peuvent ressentir. Le troisième exemple est un peu différent parce qu'on n'a pas de recul pour l'instant. Depuis 1975, et ça a été confirmé en 1994, la loi française a introduit une nouvelle catégorie, c'est très rare, donc ça mérite d'être souligné, qui est la catégorie d'être humain. Ce qui existait dans le droit, c'était la personne, mais la personne commence à la naissance. Avant la naissance, il y avait quelque chose, mais on ne savait pas quoi. Les lois ont interdit la notion d'être humain pour qualifier la vie humaine avant la naissance, donc entre la fécondation et la naissance. Mais avec sa prudence coutumière, la loi s'est bien gardée de donner un contenu, une définition et un régime juridique précis à cette notion d'être humain. En général, le droit pose comme ça un concept, et puis progressivement, au fil du temps, on lui donne un contenu, mais très lentement, ça met des années, ça met même des dizaines d'années. Toujours est-il que cette notion d'être humain disait deux choses. D'une part, c'est humain, c'est-à-dire ça relève de l'humanité, donc ça n'est pas un lapin, ça n'est pas une souris. Et d'autre part, c'est un être, donc ça n'est pas une chose. C'est quelque chose qui n'est pas encore une personne, mais qui est potentiellement une personne, disaient certains, et qui, en tout cas, relève de la catégorie de l'être et pas de la catégorie de l'avoir et de la chose. Il y avait donc deux enseignements. Et pourtant, le projet actuel de modification des lois sur la bioéthique tente de permettre de supprimer certains obstacles qui ont été mis dans cette loi de 1994, donc qui ont été mis il n'y a pas longtemps, et qui tiennent à la nature de l'embryon. Tout le propos du législateur de 1994 avait été de travailler cette notion d'être humain, donc de non-chose, non-personne, en essayant de trouver des régimes juridiques qui évitent de réifier l'embryon. Le projet politique, c'était ça, éviter de réifier l'embryon. Donc, ne pas le sacraliser, on peut le détruire, mais on ne doit pas le réifier. Donc, on établissait une distinction entre destruction, qui était une sorte de mise à mort. Bon, les humains se mettent à mort, et là, ce n'est pas une personne, donc ça n'est pas un crime. Il y a une destruction assumée, mais on essaye d'éviter une réification, ce qui n'est pas du tout le même projet. Et donc, le projet politique, c'est ça, éviter de réifier. Or, qu'est-ce que nous propose le projet de clonage dit non reproductif? Je ne parle pas du clonage qui est destiné à faire naître un être humain qui serait identique à un autre. Hein. Je parle du clonage non reproductif. Ça consiste à prendre une cellule somatique n'importe où dans le corps humain d'une personne qui est malade. Cette cellule, c'est une chose, sans aucune ambiguïté possible. C'est une chose vivante, mais c'est une chose. C'est un morceau du bras de n'importe quel organe, ça n'a pas d'importance. On peut prendre le noyau de cette cellule, donc le patrimoine génétique qui est dans ce noyau, l'insérer dans un ovocyte, un ovule énucléé, dont on a enlevé le noyau, et reconstituer comme ça un embryon. Donc on passe de la chose à l'être par quelque chose qui n'est pas une fécondation, hein, qui est une sorte de puzzle. On met le noyau dans un ovocyte, dont on a enlevé le noyau. Mais à partir de ce moment-là, on retrouve ce qui est un embryon qui, s'il était remis dans un utérus, deviendrait à la naissance une personne. Mais cet embryon, on ne va pas le remettre dans un utérus. On va le cultiver dans un milieu apte à faire de la culture cellulaire. Et quand il se sera un petit peu multiplié, on va prendre des cellules dites cellules souches que l'on peut reprogrammer pour faire un tissu hépatique, cardiaque, etc., que l'on apprend aujourd'hui à reprogrammer, et dont on tirerait des lignées cellulaires qui permettraient, à titre de médicament, de soigner la personne malade qui a donné sa cellule, qui a fait donc un embryon qui serait identique à elle-même, mais qui, au lieu de faire naître cet embryon identique, le retransforme en chose. Donc, on part de la chose, on arrive à ce qui, actuellement, est considéré comme de l'être, et on retourne à la chose. Donc, il faut effectivement supprimer un certain nombre de dispositions qui avaient été introduites en 1994 et qui font obstacle à ce projet. Et à mon avis, là, on touche à nouveau à quelque chose de tout à fait fondamental, qui est une qualification concernant l'être humain. Ça n'est pas du tout l'équivalent du vol d'électricité, c'est vraiment une qualification structurante de l'être humain. Donc, vous voyez que et ça passera quasiment sans aucun doute. Pourquoi ? Parce qu'on a une vision aujourd'hui qui est totalement finaliste, c'est-à-dire on a une éthique des finalités dans la mesure où c'est fait pour soigner et pas pour faire, par exemple, des cosmétiques. Hein. Les cosmétiques resteront interdits, mais pour soigner, on admet, en fait, la fin justifie les moyens. Donc là, on ne prête pas attention à un signal d'alerte. Et probablement, dans un certain temps, il y aura ce que les psychanalystes appellent un retour du refoulé. Donc, si vous voulez, le bilan du droit en la matière n'est tout de même pas un bilan extraordinairement positif. Le droit accompagne l'évolution scientifique, permet aux parlementaires d'afficher un certain nombre de choses très... qui font bien dans les journaux. Par exemple, on dit les gènes humains ne sont pas brevetables. Vous l'avez vu 100 fois dans les journaux. Vous avez vu aussi que Clinton et Blair demandent qu'on protège le génome humain comme patrimoine commun de l'humanité. Tout ça, c'est un discours totalement creux. Le gène humain n'est pas brevetable tant qu'il est dans votre corps, mais il suffit de l'isoler. Et le même gène humain, non manipulé, exactement identique à celui qui est dans votre corps, est breveté. Alors, il est bien évident que ça n'intéresse pas économiquement de breveter ce qu'il y a dans votre corps. Ce qui intéresse, c'est de le sortir et de pouvoir en faire quelque chose. Et à ce moment-là, c'est totalement brevetable. Ce sont des textes qui sont destinés à bourrer le mou du public. Il faut être clair. Donc, ça fait 20 ans que j'étudie cette évolution. Je crois qu'il n'y a pas de quoi être fier pour les juristes. Alors, comment peut-on arriver à changer un petit peu la donne ? Alors, je crois finalement que ça n'est pas tellement en regardant les choses comme ça, au cas par cas, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. On a pris une demande des scientifiques et puis on l'a traitée au Parlement, où on l'a traité dans les tribunaux, sans avoir de vision d'ensemble du système. Et il me semble finalement que ce qui caractérise ce modèle, c'est que, au fond, sans qu'on le dise très clairement, au bout du compte, les sciences et les techniques gouvernent, au sens du gouvernement. C'est-à-dire, les sciences et les techniques changent nos vies, souvent dans le bon sens, la plupart du temps dans le bon sens d'ailleurs, mais changent nos vies beaucoup plus sûrement que le pouvoir politique ne les change aujourd'hui. L'emprise du pouvoir politique sur la pauvreté, sur les modes de vie, sur ceci, sur cela, est tout de même assez faible de nos jours, alors que l'emprise des sciences et des techniques est finalement beaucoup plus efficace. Mais du coup, on peut se demander si la démocratie joue toujours son rôle, parce que la démocratie, les structures de base de la démocratie, sont faites pour organiser et limiter les pouvoirs de l'État, c'est-à-dire les pouvoirs du gouvernement au sens politique classique du terme, mais ça n'est pas du tout organisé pour limiter les pouvoirs de ce type de gouvernement qu'est le gouvernement des sciences et des techniques. Donc, si vous voulez, derrière une apparence de démocratie qui n'a jamais été aussi présente, hein, quand vous regardez le journal officiel, chaque année, il est un peu plus gros que l'année d'avant. Comme s'il y avait une production constante de lois, de décrets, une production de justice d'ailleurs qui n'a jamais cessé d'augmenter. Donc toutes les apparences formelles du système de gouvernement, du système politique, tendraient à montrer qu'on n'a jamais été autant dans ce qu'on appelle un état de droit, c'est-à-dire un état organisé et limité par les structures juridiques. Et pourtant, on peut craindre qu'en réalité, cette apparence soit une apparence purement formelle. Et c'est ça que je voudrais aborder maintenant, en essayant de montrer quelles sont les tentatives contemporaines pour mettre les sciences et les techniques à l'intérieur des règles de la démocratie et à l'intérieur du système de l'état de droit. Jusqu'à maintenant, la science a fonctionné dans une sphère de liberté, mais pas de liberté juridiquement organisée, une sphère de liberté hors du droit, métajuridique. Normalement, la liberté, c'est quelque chose de limité et d'organisé. Hein. Toutes les libertés d'aller et venir, d'expression, de création, etc., sont des libertés qui connaissent des limites, qui doivent être hiérarchisées les unes par rapport aux autres. La liberté de la science est loin d'être totale du fait de problèmes de financement, de problèmes d'évaluation par les scientifiques, etc. Mais en tout cas, vis-à-vis du droit, elle fonctionnait jusqu'à une période tout à fait récente dans une sphère de liberté illimitée. On pouvait totalement choisir librement ses thèmes de recherche. C'est ça, la liberté illimitée. C'est en train de changer. Je vais vous expliquer pourquoi, aussi l'inefficacité actuelle du système. Mais cette liberté illimitée faisait qu'après, on se retrouvait avec toute une série d'innovations qu'il fallait gérer une fois qu'elles étaient sur le marché. Or, une fois qu'elles sont sur le marché, elles ont des gens que ça intéresse, des groupes de pression qui ont intérêt à les mettre sur le marché, etc. Et en fait, le législateur n'est plus du tout libre de concevoir calmement ce qu'il veut comme nouvelle science ou comme nouvelle technique et ce qu'il ne veut pas. Alors, comment essayer de faire passer ce système d'une sphère hors du droit à une sphère régulée ? Mais je crois qu'il faut reprendre les grands principes de la démocratie qui fonctionnent avec des institutions, des procédures et des principes généraux. Dans les institutions, c'est finalement depuis la Seconde Guerre mondiale qu'on a essayé de commencer à penser de nouveaux types d'institutions qui seraient adaptées à la question des sciences et des techniques. Pourquoi ? Parce que les parlements se sont rendus compte que, les parlements et gouvernements se sont rendus compte que, organisés comme ils étaient, ils n'étaient pas armés pour penser ces questions difficiles, techniques, qui sont difficile à appréhender dans un univers politique. Il n'y a pas une science de droite et une science de gauche, ça n'existe pas. Or, le pouvoir politique, il est organisé pour se bagarrer entre la droite et la gauche. Donc, ça ne marche pas. Alors, il a essayé de faire des institutions qui, toutes, me semble-t-il, constituent peu ou prou des échecs. Et c'est un peu ça qu'il faut travailler. Alors, quand je dis constitue des échecs, je ne veux pas dire que ça n'a pas apporté des progrès. Je pense probablement que ça a apporté des progrès, mais ça reste globalement un échec. Il y a d'abord eu, au sein des parlements eux-mêmes, Et je pense que c'est une bonne idée parce que le Parlement reste le mécanisme de représentation au moins classique des citoyens, qu'il représente peut-être de plus en plus mal, étant donné qu'on vote de moins en moins, qu'il y a manifestement une distance de plus en plus grande entre les parlementaires et les citoyens de base. Bon. Mais ça reste tout de même quelque chose à quoi il faut être attaché. Donc c'est normal que ce soit au sein des parlements que l'on essaye d'abord de mettre en place des institutions capables de penser les sciences et les techniques. Donc on a introduit des offices parlementaires des choix scientifiques et techniques. Il y en a un en France qui travaille bien, il y en a un en Europe pour toute la communauté européenne qui fait aussi des choses intéressantes. Le problème est que, si j'essaye de voir mon expérience de l'Office parlementaire français, qui est le seul que je connaisse pas trop mal, c'est qu'il y a d'abord, me semble-t-il, à la fois trop de ruptures et trop de fusions entre le Parlement et son Office parlementaire. Son Office parlementaire se saisit de problèmes. D'abord, il se saisit souvent un peu tard, mais bon, pas toujours en tout cas. Et il commence à interroger tous les gens qui sont censés connaître la question. Mais du coup, en interrogeant les acteurs, par hypothèse, il se met au cœur du système de lobbying. Donc on a déjà une difficulté de base avec le système d'expertise et d'enquête des offices parlementaires ou d'ailleurs des missions parlementaires. On est au cœur du système de lobbying. Ensuite, il y a un deuxième problème qui tient au fait que l'office parlementaire est peuplé généralement de parlementaires qui sont eux-mêmes des gens du métier, c'est-à-dire les gens qui sont dans ou proches du nucléaire pour une raison ou pour une autre vont s'occuper plutôt des raisons nucléaires. Ce sont plutôt des médecins et des professeurs de biochimie, biologie qui font s'occuper des biotechnologies. Donc, on n'arrive pas à sortir du sérail de la science elle-même. Et à nouveau, on se met plus ou moins au cœur du lobby. En plus, les parlementaires de base, ceux du Parlement, ont tendance, d'une part, à faire une confiance absolue au parlementaire qui s'est chargé du rapport sur les biotechnologies, les risques, les machins, les trucs. Donc, à la fin, le rapport est adopté généralement à l'unanimité, personne ne l'a lu. Et puis finalement, quand on vote la loi, il y a deux types d'attitudes de parlementaires. Il y a ceux qui refusent totalement de lire le rapport qui a précédé le débat sur la loi, donc ça ne sert à rien. Et puis il y a ceux qui entérinent purement et simplement. Donc ça ne sert aussi pas à grand-chose, puisque ça ne sert en tout cas pas à provoquer du débat. C'est de moins en moins vrai, me semble-t-il, parce que l'office parlementaire commence à mieux savoir faire sa publicité, donc il y a certains débats dans les journaux, mais ça reste en tout cas quelque chose qui marche, disons, à moitié. Ça n'est pas la grande instance de débat dont on aurait pu rêver. Il y a les comités d'éthique. Alors là, je crois qu'on est parti directement, quoique le comité d'éthique ne fasse pas toujours un mauvais travail, bien au contraire, mais on est parti directement dans une piste qui est une piste tout de même un peu archaïque par rapport au monde contemporain. C'est un comité des sages, peuplé de gens qui font également partie du sérail. Les citoyens de base naïfs, sans qualité particulière, l'homme sans qualité, si vous voulez, n'y est pas représenté, il faut être clair. C'est donc vraiment un comité de sachants qui fait généralement un bon travail pour ramasser l'information, mais qui après fait un travail d'élite qui dispense la bonne parole de manière verticale. Là encore, on voit assez peu le citoyen de base apparaître. Donc, est-ce que c'était... Probablement, ils ont une place, mais ça n'est en tout cas pas une place importante au sens du débat démocratique. Beaucoup plus grave, on a toutes les commissions d'experts qui sont chargées de, d'élaborer la législation et la réglementation, le contenu technique de toutes ces normes qui ont une apparence de normes politiques, puisqu'il s'agit de lois, de décrets, d'arrêtés ministériels. Donc on est dans la pyramide des normes classiques, mais ça n'est qu'une apparence, parce que ce que signe le ministre, il signe, il ne se préoccupe pas, sauf crise médiatique, il ne se préoccupe pas du contenu de la décision. Le contenu de la décision, il est pris par des commissions d'experts. Or, ces commissions d'experts, elles, ne fonctionnent pas du tout sur le modèle de la démocratie. Elles sont organisées à la va comme je te pousse. L'une a un règlement intérieur A, la deuxième a un règlement intérieur B. Il y en a qui n'ont pas de règlement intérieur du tout. Les compositions des commissions d'experts sont totalement différentes d'une fois sur l'autre. Ça dépend. Il y en a des vieilles qui fonctionnent sur un système purement scientifique. Il y en a des plus modernes qui font apparaître un représentant d'une association de protection de la nature ou des choses comme ça. Enfin, tout ça est dans le plus grand désordre. Les procédures ne sont absolument pas pensées. Or, en réalité, le cœur du gouvernement technique, il est dans ces commissions d'experts. Commissions qui existent au niveau national, au niveau européen. Or, les commissions européennes ont le pouvoir, via un certain nombre de mécanismes, de prendre des décisions qui valent pour l'ensemble de l'Europe, puisqu'il y a une libre circulation des marchandises. Donc, tout ce qui a été décidé à tel endroit et qu'on peut mettre sur le marché à tel endroit, après, ça doit circuler librement. Et encore pire, entre guillemets, vous avez au niveau international, via l'OMC, des systèmes d'expertise qui, là, sont éminemment politiques et économiques en plus, même si, apparemment, ce sont des scientifiques qui les tiennent, mais ce sont des scientifiques représentant des États. Et peut-on être scientifique et représentant des États? Moi, je ne le crois pas. Donc, ce sont des mécanismes politiques qui permettent de prendre des décisions de mise sur le marché et après, à nouveau, principe de libre circulation des marchandises. Donc, vous voyez que, et tout ça reste au demeurant, secret, il n'y a aucun principe de transparence, aucun principe de participation du public, aucun principe d'information. Donc vous voyez qu'on est totalement en dehors du cadre des règles de la démocratie, alors que c'est là que se constitue le contenu des objets techniques dont on se sert et qui gouvernent nos vies et nos morts. Alors il y a une ultime institution qui est plus récente, dont je vous dirai un mot, mais je pourrais vous en dire beaucoup plus, puisque j'ai un petit peu participé à sa mise en place en 98, qui me paraît plus intéressante, mais elle-même limitée, qui est la conférence de citoyens, où il s'agit de prendre vraiment des citoyens de base, n'ayant aucune capacité particulière et aucun intérêt sur une question. Or, on va leur poser une question technique compliquée, après les avoir formés d'une part pendant plusieurs week-ends et leur avoir demandé d'organiser un débat contradictoire pendant un autre week-end. Donc ces conférences de citoyens, pour la première fois, donnent véritablement la parole à des gens qui sont les sujets de la technique, si j'ose dire. Ce n'est pas un mécanisme parfait parce qu'il y a de grandes difficultés de formation, mais à mon avis, elles ne sont pas totalement insolubles. Et il y a aussi une limite qui est assez vite atteinte parce que ça coûte cher d'organiser une conférence de citoyens, beaucoup plus cher qu'on ne le croit. Et donc, il n'est pas évident qu'on puisse en permanence se satisfaire de ce système. Toujours est-il que manifestement, ça engendre du débat et un débat qui, lui, devient un débat public et que donc il y a là une forme intéressante pour essayer de travailler ces institutions de la démocratie technique. dans les principes généraux du droit, et ce sera mon dernier point, qui me semble propre et important dans le cadre d'une démocratie scientifique et technique, j'ai retenu deux principes qui me semblent assez novateurs par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant et qui a donné les résultats relativement décevants que je vous ai décrits en première partie. Le premier principe me paraît être celui de la liberté de la recherche scientifique. Je vous ai dit en deux mots que jusqu'à maintenant, le choix des sujets de recherche, alors bien sûr, je ne parle pas des procédures d'expérimentation. Les procédures d'expérimentation sont depuis déjà un certain temps régulées, bien ou mal. On peut toujours mieux faire, mais on peut aussi plus mal faire. Mais elles sont régulées. Disons que là, on n'est pas dans un extérieur total à la sphère du droit. À l'inverse, le choix des sujets de recherche, et c'est considéré comme quelque chose d'extrêmement important, se situe dans une liberté qui, elle, est illimitée. Pourquoi ? Parce que ça repose sur l'idée que tant qu'on recherche, on ne peut pas faire de mal, que la connaissance elle-même ne peut pas faire de mal, et que ce sont seulement des mauvais usages de la technique qui peuvent être négatifs. Alors, c'est une vision un petit peu naïve des choses, parce que même si, en théorie, dans une sphère pure, le propos est exact, on n'est pas dans une sphère pure, on est dans une sphère où les intérêts économiques, les désirs des gens s'emparent des choses. Et à partir du moment où les choses existent, on ne peut pas faire qu'elles n'existent pas. Et on est obligé d'en gérer les conséquences. Or, il y a peut-être des conséquences qu'on ne sait pas gérer. Et il est donc bon, me semble-t-il, de faire de la liberté de la recherche scientifique une liberté comme une autre, c'est-à-dire une liberté limitée, une liberté qui doit s'exercer dans le cadre des lois en vigueur. Et à ce titre, on a un début de réalisation, alors qui est très peu de choses, mais enfin, vous savez tous qu'il y a un interdit européen, mais européen seulement, mais qui porte apparemment vraiment sur la recherche elle-même. Il y a un interdit de recherche sur le clonage reproductif humain, c'est-à-dire celui qui devrait aboutir à la naissance d'un enfant identique à son auteur. Et il y a un interdit de recherche sur les manipulations génétiques germinales, c'est-à-dire celles qui aboutissent à la transformation d'une lignée. Interdit qui me paraît beaucoup plus fragile. Alors, je crois qu'il ne faut pas se lamenter sur le fait que bon, c'est bien peu de choses, ce sont des choses qui sont pour l'instant consensuelles et ça n'a donc pas tellement d'importance. Je crois que l'essentiel, c'est d'avoir mis le doigt dans l'engrenage et de savoir qu'il n'y a pas de tabou sur la liberté de la recherche scientifique. C'est une liberté humaine comme une autre. La science n'est pas une sphère extérieure à l'homme, c'est une sphère de production humaine. Le deuxième principe important est le principe de précaution. Non pas tellement parce qu'il permet de gérer des crises sanitaires, il est utile bien sûr pour gérer des crises sanitaires, mais il est beaucoup plus utile que ça. Vous savez qu'il s'exprime de la manière suivante, lorsqu'il y a un risque plus ou moins grave, on dit parfois grave et irréversible, il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir toutes les preuves scientifiques pour commencer à agir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est la première fois qu'on admet dans des textes juridiques que la science est incertaine, qu'il y a des phases de construction dans lesquelles on ne sait pas. Et donc ça va à l'encontre d'un système de présentation de la science comme résultat. Là, c'est la science en marche qui est en cause, et donc la science avec ses incertitudes. Et on change complètement, du coup, d'optique et de vision sur la science. Et à partir du moment où on la prend dans sa phase d'incertitude, le débat peut se réouvrir. Et on est à nouveau capable d'avoir un discours politique pour choisir entre des scénarios possibles. Donc, si vous voulez, ce qui est important dans le principe de précaution, c'est certes cette capacité meilleure qu'avant à gérer des crises, mais c'est aussi et surtout la réintroduction du débat politique à l'intérieur du système scientifique dans sa phase d'incertitude. Je vous remercie.
Nous allons passer maintenant aux questions. Oui, allez-y, madame.
Oui, bonjour. Vous avez été passionnante. Je voudrais vous poser deux questions.
Allez-y.
Je crois que vous avez parlé des commissions, des conférences de citoyens comme étant très, très coûteuses. Est-ce que les commissions d'experts et tous les organismes dont vous avez parlé ne sont pas également très coûteux ? Et quels sont les points de comparaison ? Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est que le droit paraît toujours très en retard quand il est face à des techniques qui vont très, très, très vite. Et quelles seraient les solutions ?
Alors, sur le premier point, si cette question du coût est évidemment importante, parce que vous savez tous que quand ça coûte trop cher, on n'a pas les moyens de le faire. Les commissions d'experts ont cet avantage que les experts ne sont pas payés, d'une part, ça les citoyens non plus, mais qu'ils s'occupent eux-mêmes. De venir aux réunions, de manger, soit leur équipe de recherche, soit leur organisme, etc., qui paye, si vous voulez. Tandis que les citoyens, quand on les réunit à 15 dans un hôtel qu'on veut convenable tout de même, faut pas trop mal les traiter, pendant 3 jours, qu'on les fait manger, qu'on essaye de pas les faire manger trop mal et tout, qu'on essaye de les faire venir de toute la France pour que l'Ouest, l'Est, le Sud soient représentés, ça coûte cher. Moi, le Parlement a fait sa facture globale pour la conférence de citoyens. Je crois que, si mes souvenirs sont bons, c'était aux alentours de 750 000 francs. Donc, vous voyez que... Voilà. Alors, les experts sont payés par leur lobby, ils sont mal payés, enfin, sauf les industriels qui sont bien payés, mais... c'est pris sur les crédits de l'équipe de recherche, c'est pris. Alors parfois il y a de quoi payer le voyage, mais si vous voulez, on fonctionne avec des bouts de chandelle, mais des bouts de ficelle, mais dans la recherche, on est habitué à fonctionner comme ça. Hein. Mais on fonctionne sur les crédits de l'équipe très souvent. Seulement, ils ont un intérêt à ce que ça passe comme ci, comme ça, donc ils le font. Et alors, sur le droit en retard, eh bien, c'est un peu toute ma seconde partie. Pour que le droit ne soit pas en retard, c'est dans la sphère de l'incertitude et dans la sphère de la liberté de la recherche, c'est-à-dire au moment où les choses se fabriquent par les chercheurs, qu'il faut agir. Et pas après. Enfin, après aussi, bien sûr.
Une question là-haut. Levez-vous, s'il vous plaît.
Est-ce qu'on m'entend, là ?
Oui.
Oui, ça va ? Oui, moi, je vous remercie parce que vous avez vraiment bien mis en évidence nos craintes, nos appréhensions par tous les éléments que vous avez apportés. Et moi, on s'inquiète beaucoup. Et j'ai une petite histoire qui date des années 83 à peu près, à propos, dont c'est dépassé par la législation maintenant, mais c'était une jeune femme qui avait voulu récupérer le sperme de son mari qui était mort pour faire un enfant post-mortem. Et je me souviens qu'au Festival d'Avignon, il y avait un groupe de chercheurs qui avait organisé dans un petit coin une petite conférence pour faire partager leur peur devant le jugement du tribunal qui avait rendu ce sperme comme étant une chose héritée à cette jeune femme, donc le droit de s'en servir. Et je me souviens qu'effectivement, ont proposé de détruire, que ce sperme ne soit pas opérationnel. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, etc. Il n'y a pas eu de bébé. Mais enfin, je veux dire qu'au niveau de l'organisation de la résistance face à des choses comme ça, c'est aux citoyens de prendre leurs responsabilités, chacun individuellement, pour refuser quelque part, pour casser quelque chose, pour ne pas être des moutons. Parce qu'effectivement, tous les garde-fous que vous avez montrés, que vous avez donnés, ne sont pas très, très fiables. Voilà. Donc, j'en appelle un petit peu à tout le monde pour, dans son âme et conscience, parce que cette histoire de sperme, c'était sacrilège. Ça paraissait spontanément comme un sacrilège au droit de la vie. Et justement, un tribunal avait donné le droit d'eux. Donc, il fallait faire en sorte que ça n'existe pas. Et on l'a fait. Enfin, on l'a fait. Je ne sais rien.
Merci, madame.
Alors, la loi de 94 a interdit le transfert post-mortem du sperme. Et le transfert des embryons, parce que si vous voulez, c'est pas seulement dans le cas du sperme, mais il arrive parfois que des gens entreprennent un processus de fécondation in vitro. Les embryons sont déjà là et le mari meurt pendant quand les embryons sont là. Donc, il y a aussi le problème des embryons post-mortem. Pour le moment, c'est interdit. Il y a un très fort lobbying pour que ce soit précisément permis lors de la révision de la loi de 94. Alors, le problème ne se pose pas tout à fait dans les mêmes termes, parce que là, l'embryon est déjà là. Maintenant, je crois que c'est effectivement aux citoyens de dire si ça les choque ou pas. Ce qu'il y a, c'est qu'à mon sens, les citoyens sont assez du côté de la vie à venir, vous voyez. Là, ils se voient assez mal. Le pouvoir de refuser à une femme qui a des embryons, donc ces êtres qui deviennent des enfants si on les replace dans l'utérus, assez mal la possibilité de refuser ce transfert d'embryon, ce qui n'est pas la même chose qu'un transfert de sperme. Donc voilà, le débat est sur la table aujourd'hui.
Oui. Vous avez effectivement parlé de nos craintes et effectivement soulevé... essayer de répondre à toutes ces craintes face à la technique, mais je dois dire que votre discours fait naître en moi d'autres craintes, si vous permettez, et je pense qu'il faut peut-être l'équilibrer. Vous avez dit que la science a fonctionné jusqu'à présent dans une sphère de liberté hors du droit. Or, je pense que c'est faux. La science a toujours fonctionné, effectivement, par rapport à une idéologie, et c'est justement l'apport des Lumières qui a fait que la science, la connaissance en tant que telle, a pu se libérer des contraintes de l'idéologie, et c'est pour cela que nous connaissons aujourd'hui ce progrès. Je m'excuse d'employer des mots aussi archaïques, mais je crois qu'il faut le dire quand même. Alors, effectivement, il y a eu des essais de contrôle de la science, même dans nos sociétés contemporaines, ça s'est appelé Lysenko, quelquefois. Alors, ce que je voudrais quand même, c'est qu'on puisse mettre en garde, toutefois, sur un contrôle démocratique qui se veut peut-être démocratique, mais qui peut être aussi démagogique, et donner un pouvoir sans donner en même temps l'information nécessaire, ça peut être extrêmement dangereux parce que ça peut être aussi un blocage de la connaissance, du progrès, de l'esprit et de la pensée. Merci.
Oui, moi je parle de contrôle par la science et des institutions, par le droit et des institutions démocratiques, ce qui n'a évidemment aucun rapport avec le contrôle idéologique. Hein, c'est même en principe contre...
Laissez la conférencière répondre.
Oui, mais enfin, en tout cas, pour moi, les citoyens ont le droit de choisir un certain nombre de directions scientifiques. Ce n'est pas aux scientifiques tout seuls de le faire et après de mettre le monde dans l'embarras avec le machin qu'il a fabriqué. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Mais là, effectivement, vous continuez cette tradition qui, pour moi, est une tradition effectivement hérité des Lumières de liberté illimitée, et on voit après, et avec laquelle je ne suis pas d'accord.
Une question là. Oui, deux petites observations au risque de déplaire peut-être au monsieur. Je poursuis un peu la question de madame. Au fond, est-ce que à vous écouter, on a l'impression quand même que vous êtes un peu pessimiste pour l'avenir de la démocratie avec ce gouvernement de science et technique. Et je me demandais si on n'est pas en train d'entrer dans une société bien portante. Malade, bien portante, quelque part. Et deuxième observation, madame, est-ce que par nature, le droit peut être autre chose qu'en retard ? par définition, puisqu'il faut toujours qu'elle vienne après pour fixer les situations d'évolution de la société à passer déjà. Le droit ne peut pas anticiper par nature.
Alors, je suis assez d'accord avec vous, si ce n'est que ça me semble plus compliqué que ça. C'est-à-dire que le droit est automatiquement en retard sur un problème qu'on lui pose. Et ça, c'est normal. Bon, je pense que ce n'est pas très ennuyeux au demeurant. À l'inverse, ce que j'ai essayé de montrer dans la première partie, c'est que souvent, quand on l'accuse d'être en retard, il est en réalité le porteur d'une mémoire qu'un événement est en train d'essayer de détruire pour une raison ou pour une autre, et que ce retard n'en est donc pas forcément un. Si vous voulez, il y a une différence entre retard et porteur de mémoire, voilà, si je voulais être exacte. Et à l'heure actuelle, on a une certaine tendance à confondre, à croire que tout retard n'est qu'un retard, et à ne jamais voir que cet apparent retard peut être simplement la marque de quelque chose d'important, d'un invariant de l'humanité. On n'irait pas dire que l'interdit de l'inceste est en retard sur telle ou telle chose, si vous voulez. C'est un invariant de l'humanité. Voilà un petit peu ce que je voulais dire.
Une question là-haut.
Oui, et il me semble... Enfin, vous dites que le droit est toujours porteur de mémoire. Il me semble qu'on est à une époque charnière. Vous parlez aussi de citoyenneté, de parlement, de lobbying, de groupes de pression, etc. J'aimerais avoir vos commentaires par rapport à Internet et à ce que Internet va, enfin, sous-tend comme modification, comme bouleversement à tous ces niveaux-là.
Précisez un peu ce que vous avez en tête, c'est-à-dire Internet par rapport à la démocratie ou... Bon, moi, je m'intéresse beaucoup à la participation d'Internet à la démocratie, c'est-à-dire à ces minuscules groupes de pression qui, jusque-là, n'avaient pas voix au chapitre et qui, par Internet, précisément, arrivent à cristalliser des forces qui sont des forces minuscules par rapport à la force réelle qui combattent et qui arrivent parfois à faire reculer. Mais c'est souvent reculé pour mieux sauter. Minuscule aujourd'hui, en tout cas. Demain, je ne sais pas. Oui, ben je ne sais pas. Ça, je ne suis pas prophète. Je ne peux pas vous dire comment Internet sera utilisé, récupéré, etc. Je trouve que déjà aujourd'hui, c'est assez efficace. Dans un certain nombre de cas, il y a eu l'abandon du gène Terminator. Alors, pour de mauvaises raisons, et on a beaucoup surestimé la force d'Internet à cet égard, mais ça fonctionne quand même. Moi, je travaille un peu sur les propriétés intellectuelles des peuples autochtones. Bah, il est certain que les peuples autochtones, qui étaient vraiment les damnés de la Terre sur le plan politique et juridique autrefois, ont acquis... grâce à l'ONU, des mécanismes juridiques et Internet, un pouvoir qui était invraisemblable il y a 5 ans. Ils sont tous branchés. Hein.
Une question sur le côté.
Bonjour. J'ai relevé dans votre conférence le mot démocratie, c'est le mot le plus prononcé dans le discours. Alors que lorsqu'on essaie de comprendre le retard, en fin de compte, c'est parce que je crois que le juridique, il est un peu anachronique par rapport à la réalité. Non seulement dans la définition de démocratie, qui, comme vous le savez peut-être, sûrement, demos kratos, c'est-à-dire la loi, elle vient du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je ne pense pas que cela représente le nombre des croyants dans le monde. Et dans ce sens, il fallait revoir un petit peu la composition ou la manière de fonctionner du juridique pour pouvoir se réaffirmer dans le futur.
J'ai pas compris. Vous parlez des croyants ? Je comprends pas ce que vous voulez dire. Oui. Ah. Oui, alors j'avoue que moi je me situe dans une perspective laïque uniquement. Hein. Ça représentera, j'espère, la réalité de demain, y compris pour les peuples croyants aujourd'hui. Je l'espère.
Oui. S'il vous plaît, là, je voulais faire remarquer. Je voulais faire remarquer que vous avez parlé de science et technique en englobant dans le même mot ou dans le même regroupement beaucoup de choses différentes. Et autant, il y a quelque temps, on savait ce qu'était la science et puis on a vu arriver la technique et c'était à peu près clair. Aujourd'hui, on ne sait plus où commence l'une et où finit l'autre. Et d'autant plus que tout ça, et vous n'en avez peut-être pas assez parlé, c'est noyé par le vrai pouvoir qui est le pouvoir de la finance là derrière et le pouvoir des multinationales qui ont pris en prise sur tout. Et alors avant c'était clair, bon, la science c'était réservé aux scientifiques et chacun savait ce qu'était un scientifique et il travaillait de façon un peu indépendante sans objectif de réussite. Aujourd'hui le problème c'est le retour sur investissement. Et effectivement, on essaye de noyer le monde entier et pas seulement, le pays qui a mis en place ses scientifiques ou ses techniciens.
Oui, je croyais en avoir pas mal parlé au sujet du droit des brevets, qui est le moyen du retour sur investissement, effectivement. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, j'essaye d'éviter d'utiliser le mot technoscience parce que ça agace beaucoup de gens. Mais enfin, pour moi, il y a une sphère technoscientifique aujourd'hui qui est dominée par le marché. C'est évident. C'est pour ça que j'ai parlé de l'absence d'indépendance des experts, etc., etc.
D'une part, je tenais à vous remercier. On m'entend bien. Je tenais à vous remercier pour votre discours qui est tout à fait inhabituel par rapport à l'habituel. Qu'on nous sert. Bon, premièrement, alors je voulais vous demander, est-ce que je peux me permettre de suggérer très humblement que justement ces incertitudes sur la science du vivant que nous vivons à l'heure actuelle, est-ce qu'elles ne pourraient pas être soumises à un protocole pardon, qui ressemblerait au protocole d'un médicament, l'autorisation de mise sur le marché, à savoir que ça impliquerait un temps de recherche et d'analyse de ces innovations avant justement une exploitation au niveau de la masse.
Alors, c'est ce qui est le cas à l'heure actuelle pour tout ce qui est organisme génétiquement modifié. Toute dissémination, non, même avant, tout le processus de recherche, d'expérimentation, de dissémination et de mise sur le marché est soumis à des séries successives d'autorisations. Le problème, c'est que dans une science aussi nouvelle, on ne sait pas encore exactement quoi chercher. Alors que, si vous voulez, avec les médicaments, on a un cadre de pensée qui est déjà très structuré. On a une science de la toxicité qui est pas achevé, bien sûr, mais qui a des grandes bases, et on sait quoi chercher en grande partie. Tandis qu'avec les OGM, on ne sait pas encore quoi quoi chercher. Donc on n'est pas dans la même, on n'est pas dans la même structure, si vous voulez. Oui, mais pour savoir, il faut chercher. Et oui, mais il y a un moment où vous avez fait tout ce que vous pouvez en laboratoire et il faut sortir du laboratoire. Alors, vous sortez à petite dose, hein, vous faites une petite dissémination. Puis vous apprenez tout ce que vous pouvez apprendre avec la petite dissémination. Mais il y a un moment où il faut passer à la grande dissémination. Sinon, on dit, on ne le fait pas. Hein, c'est une autre possibilité. Mais si on veut le faire, il y a une série de seuils comme ça. Le seuil ultime étant que quand on fait une grande dissémination, on est dans des conditions qui restent des conditions expérimentales, un peu artificielles, et qu'une fois que les agriculteurs utilisent les champs qui sont quadrillés, comme vous savez, on est encore dans un autre système qui, lui, n'est pas expérimentable autrement que par la réalisation elle-même.